Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Merci de votre fidélité et bienvenue dans cet espace de l'actualité économique sur Radio de la Paix. Economia fait un focus dans ce numéro sur l'organisation dénommée les BRICS+, regroupant 9 pays comme le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Iran. Avec Faustin Onoson, nous analyserons le poids économique grandissant de cette organisation dans le monde. Et bien sûr, ça sera dans la rubrique Regard sur la gestion de l'économie. Ensuite, vous aurez la rubrique Itinéraire. Mais bien avant ces deux rubriques, l'explication de certains termes, et c'est dans le lexique économique. Bienvenue à tous sur Radio de la Paix.
Le lexique économique.
Les BRICS plus.
Les BRICS plus sont un groupe de 9 pays qui se réunissent en sommet annuel. Il s'agit du Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Iran. Initialement, il faut le savoir, le terme BRICS désignait 4 pays se regroupant à partir de 2009. Il s'agissait à l'époque du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine. Ensuite, il y a eu en 2011 l'adhésion de l'Afrique du Sud, qui a donné naissance à l'acronyme BRICS. En 2024, avec l'ajout de l'Égypte, des Émirats Arabes Unis, de l'Éthiopie, de l'Iran, le groupe devient donc les BRICS+.
Regard sur la gestion économique nationale.
Monsieur Faustin Onoson, bonjour.
Bonjour, monsieur Koumé.
On s'intéresse au BRICS, ce groupement composé de le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et puis donc l'Afrique du Sud. Les BRICS, selon en tout cas les données fournies par le Fonds monétaire international, sont en progression au niveau économique. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette ascension de ce regroupement?
Oui, merci, monsieur Koumé. Il faut dire d'abord que ce sont des pays émergents. Et les pays émergents sont des pays dont le PIB par habitant est nettement inférieur au PIB par habitant des pays dits développés. Donc l'objectif de ces pays, c'est de faire en sorte qu'ils rattrapent leur retard en matière de développement. Et ces pays ont des atouts. Et aujourd'hui, je crois qu'ils contribuent à près de 31,5% du PIB mondial. Et dans ce cadre bien précis, ce sont des pays qui dépassent le G7, ce sont les 7 pays les plus riches du monde. Et il faut dire aussi que dans le cadre de la mondialisation, ce sont des pays qui ont plus de 50% de la croissance économique mondiale ces 10 dernières années. Donc tous ces atouts font véritablement courir les BRICS, qui ont vu un peu la réalité en matière des politiques économiques et financières, en matière des termes économiques et financiers. Et ils estiment qu'ils ont leur part à jouer dans la mondialisation.
Alors, mais qu'est-ce qu'ils pourraient expliquer ce poids grandissant de l'économie des pays qui composent les BRICS?
Oui, je crois qu'il y a un élément assez important qui relève de notre sous-sol, c'est la production de pétrole sur le plan mondial. Vous savez que le pétrole joue un rôle important en matière de gestion de la production nationale. Et donc, à eux seuls, ils ont près de 42% de cette production mondiale. Et cela fait qu'ils ont des avantages sur le plan économique et même, j'allais dire aussi, financier. Donc, nonobstant ces avantages, je n'oublie pas le gaz aussi. Et ils estiment, pour leur part, qu'ils peuvent jouer un rôle important en matière de gestion des économies nationales.
Mais quand même, dépasser des pays industrialisés, en tout cas ceux du G7, parle par exemple des États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et le Canada. C'est étonnant, on peut le dire, parce que c'est les 7 grands pays donc industrialisés du monde. Et quelles sont les recettes des BRICS aujourd'hui?
Oui, les recettes, d'abord, c'est le poids des BRICS dans la mondialisation. Vous savez qu'ils ont été seulement créés en 2011 et déjà, ils avoisinent un peu plus de 27% du PIB mondial et plus 20% de la production mondiale de pétrole. Et donc, compte tenu de tous ces paramètres macroéconomiques, je pense que ce poids y est pour quelque chose. Et ils ont confiance en eux. Avec ce poids qu'ils ont, avec le niveau qu'ils ont atteint en matière de gestion de tout ce qui est politique, économique et financière sur le plan mondial, et ils estiment pour leur part qu'ils ont un véritable rôle à jouer. Puis il faut dire aussi que ces pays-là vont s'enrichir. Nous se sont enrichis de certains pays, notamment l'Égypte, qui est un pays africain, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie, l'Iran, etc., etc. Aujourd'hui, ils ont pris le nom de BRICS plus compte tenu de ceux qui vont y ajouter. Donc, c'est vrai que ce sont des pays émergents, mais ce sont des pays tout de même qui ont une puissance financière sur le plan mondial.
Alors, la Chine, qui est membre donc de cette organisation, la deuxième puissance économique mondiale, est-ce que la présence de ce géant chinois pourrait expliquer aussi cette dynamique notée?
Oui, la présence de ce géant chinois, c'est vrai, pourrait expliquer cette dynamique. Mais lorsqu'on va un peu plus loin et qu'on fait quand même la comparaison, parce que pour voir qu'un pays est riche, il ne faut pas seulement se baser sur le PIB tel qu'on le dit. C'est la variation de la production nationale qui relève d'un certain PIB. Mais il faut voir aussi le PIB par habitant. Et le PIB par habitant nous permet de dire que ce sont des pays qui sont véritablement émergents. Parce que là où on a 12 600 dollars par habitant en Chine, en Inde, on a à peu près 2522 dollars. En Russie, on a à peu près 14 092 dollars. Mais pour les pays du G7, par exemple, on a près de 76 359 dollars par habitant. Et ça, c'était en 2022, mais en 2023, ils avaient atteint les 80 000 dollars par habitant. Donc, moi, j'estime, pour ma part, c'est vrai que le PIB lui-même, tout comme sa variation d'ailleurs, sont des éléments importants pour dire d'un pays qui est puissant sur le plan économique et financier. Mais il faut aller jusqu'au PIB par habitant pour voir comment est-ce que cette richesse-là est partagée et comment est-ce qu'on peut alors dire si un pays a encore à lui des gènes du sous-développement ou alors les a totalement laissés.
Justement, comment expliquer cette disparité, hein? Les pays membres du BRICS sont donc en avance comparativement au G7. Et puis, en ce qui concerne le PIB par habitant, on note cette disparité-là. Comment l'expliquer justement?
C'est pour vous dire que ce sont des pays émergents. Et le pays émergent, il peut avoir un PIB important, mais par habitant, le PIB est nettement plus faible que celui des pays développés. Et c'est vrai que ces dernières années, on se base un peu sur certains taux de conversion fictifs qu'on appelle les parités de pouvoir d'achat. Lorsqu'on essaie de faire des comparaisons en termes de parités de pouvoir d'achat, on constate que les BRICS ont atteint un certain niveau. Quand on parle de parités de pouvoir d'achat, c'est qu'on ne tient pas compte de ce qui se passe vraiment sur le marché d'échange.
Mais en quoi consiste cette parité de pouvoir d'achat, justement?
Et je crois que je vais répondre à votre question par un exemple. Lorsqu'on peut parler d'un panier de biens qui, en France, qui fait 100 euros, vous me suivez, et ce même panier de biens revient à 120 euros aux États-Unis, on aura une parité de pouvoir d'achat qui est telle que 1 euro est égal à 1,20 dollars. Vous comprenez un peu? Alors que sur le marché d'échange, 1 euro est égal à 1,4 dollars. D'un côté, on a un taux de conversion qui est fictif, et de l'autre côté, on a un taux de conversion qui est réel, voilà, qui met l'accent sur la réalité du terrain. Là, ça se fait en fonction de l'offre et de la demande, et au côté, c'est d'une manière fictive. C'est pourquoi j'estime, pour ma part, qu'il faut surtout se baser sur ce qui se passe sur le marché d'échange, parce que lui met en relief l'offre et la demande des monnaies, et on essaie de voir quelle monnaie qui est plus forte par rapport à une autre.
Alors, mais en termes de perspective, les BRICS gagnent du terrain avec l'intérêt que cela suscite, les demandes d'adhésion de plusieurs pays à cette organisation-là. Est-ce qu'on peut, à terme, avoir une organisation qui va supplanter le G7, par exemple? Votre analyse là-dessus?
Oui, c'est vrai, mais ils sont assez clairs. Ils ont créé les BRICS, ils ont même créé une belle banque de développement.
C'est cela.
Pour offrir des alternatives au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Et leur nouvelle banque de développement est basée à Shanghai. Et Moscou est actionnaire dans cette nouvelle banque de développement. Et je vais vous dire une chose. Bien que Moscou soit actionnaire dans cette nouvelle banque de développement, c'est une nouvelle banque qui a tenu compte des sanctions contre la Russie. Depuis 2021, ils n'ont plus de crédit à la Russie. Et donc, leur objectif, c'est concurrencer le Fonds monétaire international et puis la Banque mondiale. Pour offrir, si vous voulez, plus de possibilités en matière de gestion des politiques économiques et financières et à leurs différents États membres ou aux différents États du monde.
Paradoxalement, ces pays sont membres de ces deux institutions financières, le FMI et la Banque mondiale. Pourquoi se démarquer par cette banque de développement des BRICS?
Non, ils ne se démarquent pas. C'est un peu comme si je vous posais la question de savoir, vous êtes Ivoirien, pourquoi vous avez un compte ici en Côte d'Ivoire et puis peut-être un compte aux États-Unis d'Amérique. Voilà. Mais vous allez là où vous pensez que vous pouvez avoir plus d'avantages en termes économiques et financiers. C'est vrai, j'ai dit qu'ils ont créé une nouvelle banque, c'est pour offrir encore plus d'alternatives au fonds et à la Banque mondiale. Mais le rôle du fonds, c'est quoi? Le rôle du fonds, c'est de soutenir les économies qui ont des problèmes de déséquilibre en matière de balance des paiements. Et quant à la Banque mondiale, elle met l'accent sur les politiques d'offre, c'est-à-dire les vraies politiques de développement, l'accent sur l'investissement, sur la consommation, sur la variation des soldes du commerce extérieur. Et c'est tout ça la Banque mondiale. Et leur objectif à eux, c'est effectivement de permettre à leurs États membres de s'enrichir davantage et d'avoir des possibilités économiques et financières pour pouvoir développer ou soutenir leur monnaie. Parce que ces pays-là, généralement, ont des monnaies qui sont très faibles. C'est des monnaies qui sont très souvent arrimées et à des paniers de monnaie sur le plan international. Ils doivent leur force, ce genre de paniers de monnaie. Je prends un pays comme la Chine, par exemple. La Chine a été longtemps arrimée au dollar, le yuan chinois. Mais ces dernières années, ils sont allés s'aligner à un panier de monnaie, voilà, sur le marché international.
Pays membre donc du BRICS, l'Afrique du Sud hein, est un pays africain. L'Égypte, vous avez cité, est aussi intéressée. L'Algérie également. Que pourraient gagner les pays africains à être membres de cette organisation?
Ce qui fait courir tous ces pays qui souhaiteraient eux aussi bénéficier d'une économie solide grâce à des devises qu'on pourrait leur offrir et grâce à un marché au niveau duquel ils pourraient être pour pouvoir développer un tant soit peu un solde monétaire négatif au niveau de la balance des paiements.
Monsieur Faustin Onozon, je vous remercie.
Merci Monsieur Komé.
Itinéraire, le parcours de vie de notre invité.
Itinéraire, mes auditeurs, et nous sommes face à M. Sidibé Mamadou, qui est transporteur. M. Sidibé, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, transporteur, c'est un terme qu'on connaît de manière générale. Quel type de transport vous faites?
Nous sommes des transporteurs particuliers, donc des domaines de Baka. C'est dans ce domaine que nous faisons le transport. On fait la ligne de Daloa Yamsoukro, Daloa Boafli Bono et Boaké, Daloa Abidjan.
Alors justement, vous êtes transporteur aujourd'hui, propriétaire donc de véhicules. Est-ce que vous avez été toujours transporteur? C'était votre amour du début? C'est ce que vous avez commencé à faire ou bien vous avez fait autre chose avant de vous lancer dans ce secteur-là?
Ok, le secteur transport, je vais dire que c'est un héritage pour moi et que mon père était un transporteur, un grand transporteur à Sayoa. Donc moi, je suis allé au garage être un mécanicien. Mais j'ai vu que c'est le transport qui m'intéressait beaucoup par rapport à le métier mécanique. Donc j'ai dit au vieux que je vais aller à la gare. Donc il ne voulait même pas que je parte à la gare. Voilà, parce que c'est un milieu aussi qui est un peu sale. Si tu vas pour du sérieux, tu vas faire du sérieux. Mais si tu vas pour des vagabondages, ça peut être débuté aussi à la gare. Donc j'ai décidé d'aller faire l'apprentissage à la gare pendant 3 ans, passer mon permis. Commencé à rouler. J'ai fait apprentissage à Sayoa. De Sayoa, j'ai passé mon permis. J'ai décidé de venir à l'aventure à Daloa, être chauffeur. Donc à Daloa, j'ai commencé à chercher du travail, être chauffeur de quelqu'un. Dieu a fait que j'ai eu un patron qui m'a beaucoup aimé et que je travaillais correctement. De là aussi, je suis allé à Abidjan, allé rouler Baka. Je faisais la ligne de Abobo à Djamé. Et quelques 2 ans, je me suis retourné encore à Daloa pour continuer le même conduite.
Est-ce que déjà, votre objectif dès le début, c'est seulement d'être chauffeur ou bien vous avez l'idée demain d'être propriétaire aussi de véhicules, d'être transporteur comme vous l'êtes aujourd'hui?
Oui, j'avais cette idée, être propriétaire de camion. J'avais mon objectif, être un jour propriétaire de camion. Arrivé à un certain moment, j'ai fait mes petites économies. Mes amis me parlaient qu'on doit aller à l'aventure, mais il y a des amis qui sont là à l'aventure. J'ai vu mon petite économie que j'avais fait. Si je tente à aller à l'aventure et que ça n'a pas marché, je dois venir reprendre encore à zéro.
C'était combien à l'époque déjà?
À l'époque, à ce moment, j'avais une somme de 800 000 francs qui était déjà en espèces. qui étaient là et que d'autres partaient à l'aventure avec 400 000 francs, 300 000 francs. J'étais à 800 000. Je dis, mais si je suis déjà à 800 000, je peux atteindre 1 million et quelques. Payer un ancien Woro-Woro, commence à me débrouiller. Mais si je fais erreur, que je m'engage sur le chemin de l'aventure et dans le cas contraire, cet argent se garde dans ma main. Je dois venir reprendre en quoi à zéro. Donc vraiment, je n'ai pas eu cette idée d'aller à l'aventure.
À l'aventure déjà, ceux qui sont allés, c'était où? Vous aviez une idée à peu près éventuellement?
Bon, à ce moment, c'était le Maroc. On nous a déjà dit l'itinéraire où il faut arriver au Maroc, passer par le Mali, à l'Algérie, rentrer au Maroc et tenter ta chance à traverser l'eau pour l'Espagne. À ce moment, il n'y avait pas encore la guerre en Libye, donc l'idée de tout le monde à ce moment, c'était d'aller au Maroc et traverser en Espagne.
Alors, donc vous, Sidibé, vous réfléchissez, je dois aller, je ne dois pas aller. À quel moment vous avez pris conscience de dire, bon, l'aventure, ce n'est pas forcément ce qui va me permettre de réussir?
Oui, bon, j'ai fait l'apprentissage avec un ami à l'époque qui a décidé un coup d'aller à l'aventure. Il allait prendre du temps. Au finish, il s'est retourné en Côte d'Ivoire. Il a perdu son permis. Il est venu encore reprendre tout, passer un autre permis, bon, chercher encore le travail. C'est pas facile parce qu'on sait pas où tu as fait apprentissage et pour avoir la clé d'un camion comme ça, c'était pas facile. Donc quand il est venu, j'ai dit, bon, tu as vu, si je le suivais, ça allait m'arriver ce qu'il est arrivé.
En tout cas, un exemple palpable. Alors, on revient un peu au montant que vous avez pour parler de votre itinéraire. Vous êtes allé un peu à Abidjan et puis après, vous décidez de revenir à Daloa. Quand vous revenez à Daloa, ça veut dire quoi? Vous avez déjà votre véhicule pour continuer votre activité?
Quand je suis revenu encore à Daloa, j'étais encore chauffeur et que j'ai décidé un jour quand mon économie est arrivée à 1 700 000, donc j'avais une moto déjà, j'ai décidé de vendre la moto et faire cet argent à 2 millions et que j'ai un grand frère. Je l'ai approché pour qu'il m'achète une voiture occasion pour moi, là que je vais me débrouiller avec ça. C'est par là qu'il m'a dit que bon, vraiment les 2 millions, je peux prendre ces garanties. J'ai un ami qui a Duglo, qui a un camion là-bas, il veut vendre. Mais comme je connais ta compétence, je sais que tu peux le rembourser. Donc le monsieur a donné le prix du véhicule à 4 millions. Donc les 2 millions, le grand frère a pris ça en tant que garantie. Allez donner au monsieur, il m'a remis la clé de ce camion. C'était en 2010 que j'ai été le propriétaire de camion.
La première fois, donc, Sidibé est propriétaire de camion. Quand vous avez la clé, comment vous vous organisez pour aujourd'hui être ce propriétaire de véhicules avec beaucoup de fierté?
Oui, à ce moment, j'avais cette idée qui était dans ma tête quand je me voyais qu'à mon jeune âge, que vraiment moi, je suis propriétaire de camions où mes amis cherchent à travailler. D'autres, j'ai des amis même qui ont commencé à m'approcher. Automatiquement, ça m'a un peu réfléchi. Ils disent, mais ils viennent envers moi parce qu'ils ont appris que j'ai eu un camion pour moi-même. Ils disent qu'ils veulent travailler pour moi. Il dit, ah là, c'est que où je suis arrivé là, je dois tout faire pour avancer. C'est à partir de là, je sais que je dois continuer. Et moi-même, j'ai décidé de m'asseoir sur cette véhicule et ne pas partager à quelqu'un d'autre. Avancer, payer les crédits de la voiture. On appelait ça la traite du camion. Donc, à partir du moment que j'ai fini de payer la traite, j'ai senti que je peux toujours avancer.
Quel argent rentre? Comment vous réussissez à gérer pour ne pas être tenté, jeune que vous êtes, propriétaire de camion, comment vous avez réussi à vous discipliner?
Oui, j'ai vu que cet argent qui est là, quand je travaille, non seulement chaque fin de mois, je dois rembourser une somme au grand frère qui a été mon garantie, et que la voiture aussi doit être assurée, je dois payer aussi les pneus. Donc, je ne dois pas m'amuser. Donc, j'ai décidé, jusqu'à ce que je finisse de rembourser l'argent du genre, pas m'amuser avec cet argent. Donc, j'ai économisé. Chaque fin de mois, j'enlevais la traite du monsieur. Et le peu qui reste, je regarde les pneus, les pièces du véhicule, je contrôle. Je dis, bon, ok, dans tel mois, je dois avoir besoin de 2 pneus ou 3 pneus. Ou soit l'assurance va finir, je dois prendre la patente. Donc, j'ai cette idée dans ma tête, je ne peux pas m'amuser. Voilà.
Aujourd'hui, vous êtes propriétaire de combien de véhicules?
Aujourd'hui, je suis propriétaire de 3 à 4 véhicules aujourd'hui.
Quand on arrive à ce niveau de sa vie, aujourd'hui, quand vous regardez en arrière puis ce que vous êtes devenu, qu'est-ce que vous vous dites?
Oui, vraiment, quand je regarde le passé et aujourd'hui, j'ai dit Dieu merci. J'ai dit merci aussi à mes parents qui me donnaient beaucoup de conseils aussi. J'ai dit, ah, vraiment, j'ai eu raison d'être poli. discipliné. C'est ce qui m'a amené là aujourd'hui où je suis. Donc je conseille aussi à mes amis, les débutants aussi, de ne pas reculer. Première des choses, respecter les gens. Puisque celui qui a pris ses garanties de mes débuts là, c'est parce qu'il a vu que j'étais un enfant poli, discipliné. Voilà pourquoi il a décidé de prendre cet engagement. Donc le respect est beaucoup demandé dans ce métier.
Réussi sa vie, alors aujourd'hui on peut vous considérer comme des personnes qui font partie de ceux qui ont réussi leur vie, mais justement, comme la vie ne s'arrête pas d'un coup, quels sont vos projets?
Vraiment, nos projets d'avenir que nous demandons au gouvernement, c'est pas forcément de penser seulement à ceux qui ont des gros cas. Nous, les petits débrouillards aussi, qui sont dans le domaine des petits véhicules de transport, vraiment que l'État nous approche aussi, nous montrer des solutions, parce que nous rêvons aussi beaucoup pour être aussi grands demain, avoir aussi beaucoup de cas, créer notre propre société de transport. Nous, c'est nous notre rêve.
Alors, mais comment on gère une entreprise de transport? Quel est le secret pour que l'entreprise puisse continuer son activité?
Le vrai secret de l'entreprise, d'abord, avoir beaucoup de sacrifices à faire. Et suivre aussi le véhicule, de ne pas donner le véhicule à n'importe qui. Donc, ce côté chauffeur-là, il faut beaucoup veiller sur ça. Donc, si le chauffeur n'a pas de respect pour ses clients, ça sera un peu difficile pour le propriétaire d'être évolué. Quand l'argent rentre, on est en contact avec des banques, des petites banques. On dépose une somme à chaque fois pour ne pas garder l'argent sur toi. Si l'argent vient directement, tu n'as rien à faire dessus, tu déposes ça. Et qu'il y a une panne où tu as besoin d'une somme, tu crédites ce que tu en as besoin. Moi, c'est par là qu'on peut mieux gérer l'argent.
En tout cas, merci à vous, amis auditeurs. On a pris du plaisir à écouter cet entrepreneur dans le domaine du transport, M. Sidibé Mamadou, qui nous parler de son expérience, de son parcours. C'est un exemple à suivre et nous vous incitons à cela. Merci à vous, M. Sidibé.
Oui, merci à vous aussi. Merci à vous.
En tout cas, à bientôt, amis auditeurs. On se retrouvera avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine pour une autre expérience de vie. Au revoir.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.